C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, Dominique Anglade a démissionné hier matin. La question, c'est pas tellement qui va prendre la direction du parti, mais surtout, est-ce qu'il y a un avenir pour le Parti libéral du Québec? Luc?
Non. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est un grand parti qui a fait des grandes choses. Elle l'a rappelé hier dans son discours de démission. Tu sais, la nationalisation de l'électricité, l'assurance maladie, etc. La loi sur les déficits. Je pense qu'elle est allée un peu vite en affaires. Dominique Anglade nous a fait la démonstration que ce parti-là ne peut pas exister s'il ne se réinvente pas. Parce que quand elle est arrivée en poste, rappelez-vous, première affaire qu'elle a dit, qu'on ne va pas commencer à laver notre champ de l'en public. Et puis qu'il n'est pas question, ça ne va rien donner, ça ne portera rien aux Québécois, ça ne portera rien au Parti libéral. On va de l'avant. Alors que il y avait des gens qui disaient non, on sort d'une période où on vient d'être rejeté assez fortement. On va regarder ce qui nous est arrivé dans le passé, notamment toute la période Charest, etc. Et elle a dit non, il n'y en a pas question. Fait que mais en contrepartie, elle s'est lancée dans des réformes. On n'avait jamais vu le Parti libéral se porter à la défense du fait français avec autant d'énergie. Elle a voulu donner plus de pouvoir aux régions. Elle s'est lancée dans un projet écologique qui n'a pas convaincu, mais quand même, c'est un projet écologique. On n'avait jamais entendu le Parti libéral se lancer dans une plateforme comme ça. Puis ça a fait pout, 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 patate, poum, boum. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est que le prochain, il peut pas juste partir avec des nouvelles idées. Parce que des nouvelles idées, elle a essayé, elle, des nouvelles idées. Mais ça marche pas. Il faut aller en profondeur dans l'histoire du Parti libéral. De qu'est-ce que ce parti-là a à offrir de différent de la CAQ? Puis comment il peut le faire? Puis comment il peut se rebâtir?
Nathalie.
Bon, tu réponds non ce matin. Moi, je réponds oui. Oui, il y a un avenir pour le Parti libéral du Québec. Parce que, objectivement parlant, et croyez-moi, je suis capable d'objectivité lorsqu'on parle du Parti libéral du Québec. Objectivement parlant, dans l'état actuel des choses au Québec, le Parti libéral du Québec est le seul parti qui offre une possible alternative à la CAQ. La CAQ n'est pas éternelle. Un jour, comme tout gouvernement, la CAQ va s'essouffler. Pourquoi je parle d'une possible Pourquoi le PLQ serait la seule alternative possible à la CAQ? Parce que si vous regardez l'échiquier actuel sur le plan politique, PQ, QS, 11 députés, peut-être 12 avec l'élection de Nancy Henry-Sainte-Anne. Et en passant, s'ils font élire un 12e député, il serait reconnu officiellement comme parti politique à l'Assemblée nationale. Éric Duhaime a fait élire 0 député. Alors, je pense que le PLQ a un potentiel pour devenir une alternative à la CAQ. Mais les défis sont colossaux. Et croyez-moi, le parti va survivre au départ de Dominique Anglade. C'est un parti qui a 155 ans d'histoire. Tu l'as dit, Luc, c'est un parti qui a à son actif de grandes réalisations, qui a contribué à bâtir le Québec tel que nous le connaissons. Les chefs qui ont parti, là, qui ont quitté, Robert Bourassa, après la défaite de 76, qui est parti enseigner en Europe, également aux États-Unis, Jacques Parizeau qui a quitté après le référendum de 95, Jean-François Lisée, Bernard Landry, insatisfait de son vote de confiance, Philippe Couillard en 2018 après la défaite d'octobre. Alors, il y en a une liste. En fait, rares sont les chefs qui demeurent en place après des résultats aussi peu satisfaisants comme ceux qu'a connu le PLQ le 3 octobre dernier. Maintenant, les défis, je le disais, sont gigantesques. Il y a tout d'abord un défi de reconstruction sur le plan de l'organisation. Il faut rebâtir les exécutifs dans les comtés, le membership, s'occuper de la situation financière, parce que croyez-moi, le PLQ ne roule pas sur l'or actuellement. Il faut reconstruire le parti sur le plan de ses idées. C'est impossible de repositionner le PLQ si le parti avec ses militants ne fait pas cet exercice. Il faut actualiser les valeurs qui sont chères au PLQ. En 2022, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, les libertés individuelles? Qu'est-ce que ça veut dire, le développement économique, la justice sociale? C'est toutes des valeurs qui ont guidé le parti depuis sa naissance.
Mais Nathalie, c'est vrai ça. C'est vrai, mais
oui.
Que le parti a des grandes réalisations, un passé brillant, mais depuis, mettons, 20 ans, là, le passé brillant, là, les grandes réalisations sont souvent, tu sais, à l'époque Le Sage et autres, mais depuis 20 ans, là, qu'est-ce que le parti pourrait remettre sur la table en disant, waouh, ça, là, c'est notre marque, puis ça a vraiment fait du bien au Québec. Et on oublie.
Exemple, je vais donner un exemple concret, si tu permets. Le Parti libéral du Québec est le seul parti dans l'histoire du Québec qui a réussi à unir les francophones, les anglophones et les immigrants. De quoi on parle actuellement? On parle de l'immigration sous l'angle de la division plus que de l'inclusion. Le Parti libéral pourrait très bien se positionner comme le parti sur la base de ce qu'il a réussi à faire auprès de la société québécoise, comme le parti qui est celui qui incarne le mieux ce que on peut à réaliser en matière d'intégration chez les immigrants. La pénurie de travailleurs. Le gouvernement de François Legault, selon moi, en parle très peu. Il y a quelque chose là pour le Parti libéral du Québec, parce que je pense qu'il n'y a pas un plus grand défi d'adaptation, nonobstant les changements climatiques, que celui lié à la pénurie de travailleurs qui affecte nos vies, qui affecte toutes les sphères de notre société. Mais alors là, ça, c'est de très beaux défis pour le PLQ.
Mais là, j'ai une question évidemment un petit peu vicieuse, mais je la pose quand même.
Qui
es-tu? Non, mais est-ce que le Parti libéral doit se tourner vers un chef ou une chef, là, c'est pas important, là, homme ou femme, de nouvelle génération, ou si tu tournes vers des politiciens d'expérience, que ce soit, on le voit dans le sondage, Denis Coderre, que ce soit Pierre Moreau.
Pour moi, c'est clair que c'est une nouvelle génération et il faut que le parti, que cette personne de cette nouvelle génération-là, là, mette une croix sur pas mal de choses que le parti a faites qui étaient mal reçu par les Québécois, plutôt négatif, passé date. Le Parti libéral, le parti de 150 ans, 105 ans d'histoire, etc. Oui, Parti libéral, plein de gaffes aussi. Hein. Plein de...
Comme tous les partis politiques.
Des atavismes qui ne sont plus vraiment...
Précise ta pensée.
Le Fitzgibbonisme. Le Fitzgibbonisme,
ça... ça, c'était la CAQ, je te ferai remarquer.
Le Parti libéral, c'est eux qui ont inventé le Fitzgibbonisme, c'est-à-dire le développement économique à tout prix. Du filage, sors-en parce qu'on va en avoir besoin. Pendant des années, il n'y avait pas de salut sans développement économique au Parti libéral. Les contrats secrets aux alumineries, le plan Nord, la structure de taxation des entreprises. Pas vrai que nos entreprises vont être les plus taxées en Amérique. Il y avait une espèce d'obsession là-dessus. Ça a mal vieilli, je trouve.
Le développement énergétique du Québec. Tu penses que le Québec a mal vieilli grâce à la vision d'un Jean Lesage qui, avant lui, avec qui Georges-Émile Lapalme...
Je m'exprime
parce que tu pointes du doigt le Parti libéral du Québec qui est un grand bâtisseur. Si ce n'était de la vision des Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme, ajoute à ça René Lévesque, Robert Bourassa, le Québec ne serait pas dans la position qu'il est actuellement avec sur le plan énergétique. L'énergie dont on dispose actuellement, la vision, les grands barrages, la baie James, c'est 100 000 jobs.
On est bénis des yeux, Luc, avec les petites centrales qui donnaient aux amis du Parti libéral des petits projets de centrales à travers le Québec pour faire de l'enrichissisme. Pas de l'enrichissement,
Je pourrais faire le procès du Parti québécois, je pourrais faire le procès du Parti libéral du Québec. C'est quoi, tantôt, on va pouvoir faire le procès peut-être de la CAQ avec les nombreuses subventions aux entreprises qui sont données à bien des amis
Peux-tu parler d'un autre atavisme, un dernier,
puis après ça, je veux que Nathalie réponde à la question. C'est un excellent point. Merci, Mme May.
Un autre des atavismes du Parti québécois, là, c'est le « c'est pas vrai qu'ils vont s'en mettre dans les pochismes ». Par exemple, toute la tentative de frapper à répétition sur les personnes en aide sociale. À répétition. Avec les Picouillard avec le projet de réduction de l'aide sociale aux plus pauvres. C'était quoi cette idée-là? Puis les augmentations de frais de scolarité encore pour des gens les plus pauvres. C'est quoi cette idée-là de dire le problème avec les pauvres, c'est qu'ils sont pas riches?
Ben, on peut-tu parler de la bonification des allocations familiales, Luc? Est-ce qu'on peut parler de ça, toi et moi? Le programme d'assurance parentale, est-ce qu'on peut en parler? Écoute, le Parti libéral du Québec, contrairement à ce que tu affirmes, est un parti qui a amélioré le filet de sécurité sociale. Puis la pauvreté, la défense de la pauvreté, c'est pas seulement l'apanage du Parti québécois. Ça, c'est une vieille lubie, là, de la gogauche solidaire qui pense que la pauvreté, ça lui appartient, puis que seulement la gogauche solidaire qui peut lutter contre la pauvreté.
Nathalie,
Québec.
J'ai retrouvé le serment d'allégeance au Canada du Parti libéral. Veux-tu que je te lise?
Non, on n'a pas le temps.
Ben oui, justement, le fédéralisme, c'est une force du Parti libéral du Québec. Puis avoir un Québec fort dans un Canada qui est uni, je sais que c'est un slogan, mais c'est aussi une marque de distinction du Parti libéral du Québec. Les chicanes avec Ottawa, à un moment donné, on peut-tu passer à autre chose?
Juste une dernière petite chose. Un jeune ou une jeune leader ou quelqu'un d'expérience pour prendre la direction du parti, tu crois?
Ben oui et non, c'est-à-dire que je pense que le premier acte que doit prendre ce futur chef ou peut-être futur chef, c'est qu'il s'engage dans un mandat de 4 à 8 ans. Et c'est un mandat de reconstruction qui est important. Il va devoir être extrêmement patient et il y aura aussi encore à faire un vent de face. Ça va prendre un chef qui a des qualités, je dirais pas exceptionnelles, mais qui va lui permettre de se démarquer. Premièrement, la symbiose avec les militants. Il devra l'opérer rapidement. Ça devrait être un chef qui rassemble, un chef charismatique. Peut-être un chef qui vient des régions. Pourquoi pas? Ça pourrait être fort intéressant. Je dis pas que ça sera facile, bien au contraire. Et le Parti libéral du Québec a eu bien des défis devant lui. Celui-là, honnêtement, c'est un très grand défi. Peut-être un chef, parce que la nouvelle génération, c'est intéressant, mais en même temps, ce serait un chef qui ne connaît pas les instances du parti. Ça a manqué à Philippe Couillard, ça a manqué à Dominique Anglade.
OK.
Puis, ouais, voilà.
OK, on s'arrête pour la pause.
Ça te fait sourire, Paul Arcand? Ça te fait sourire?
Tout le temps. Moi, j'aime bien ça. Alors, on va s'arrêter et on va parler de ce combat qui s'est amorcé il y a longtemps entre le ministre de la Justice, M. Jolin Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Mme Rondeau, concernant le nombre de juges et leur semaine de travail.
La commission Normando-Ferrandaise.
La juge en chef de la Cour du Québec, Maître Rondeau, dit essentiellement, nous les juges avons besoin de plus de temps pour rédiger nos décisions, les causes sont complexes, ce qui fait que nous allons siéger moins de jours par semaine, et le message à Québec, embaucher plus de juges. Réponse du ministre Jolin Barrette, on n'a pas le temps d'embaucher tous les juges et vous allez siéger plus longtemps. Bref, c'est une bataille qui est devant les tribunaux et la juge en chef a gagné la première manche. Mais là, on regarde ça comme citoyen. Tu dis, est-ce que toute cette opération-là est en train de nuire au système de justice, des causes qui vont s'étirer puis des délais qui vont devenir interminables? Nathalie.
Bien, tout d'abord, c'est triste de savoir que le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour du Québec se retrouvent devant le tribunal pour faire valoir leur point de vue. C'est une situation inusitée, je dois le dire, dans l'histoire du Québec, parce que généralement, les juges en chef, administrent au quotidien la bonne marche des tribunaux. Rarement, un ministre de la Justice s'implique dans le travail des juges en chef. La situation actuelle qui fait que aucun des partis ne puisse se parler cause un préjudice au système de justice, parce que la solution, ce serait que les partis puissent dialoguer. D'autant plus que dans le jugement qui a été livré hier, on apprend que la juge en chef a informé deux sous-ministres du ministère de la Justice de la situation. Le juge a conclu que, parce que le gouvernement a dit, bien, on demande à la justice de sursoir à cette décision de la juge en chef qui fera en sorte qu'un juge siégerait une journée sur deux. Et le juge a rejeté pour toutes sortes d'éléments de droit là, dont on ne va pas parler ce matin parce que ce n'est pas nécessairement important pour le dossier, a rejeté cette décision en disant que ça ne causera pas un préjudice irréparable au système de justice, étant entendu qu'il y a déjà des délais avec lesquels le système doit composer. Moi, je regarde tout ça, Paul et Luc, là, et je me dis la solution est peut-être ailleurs. C'est-à-dire, la juge dit, écoutez, les dossiers sont de plus en plus complexes, les juges ont besoin de plus de temps pour délibérer. En fait, on estime que un juge a besoin du tiers de son temps pour délibérer. Et la solution de la juge en chef, c'est de dire, écoutez, embaucher plus de juges à ce moment-là. Le gouvernement a dit, on peut pas embaucher des juges dans un si court laps de temps, puis il y a des frais importants qui y sont associés. Ce qui se passe actuellement avec le système de justice, c'est comme les urgences. Il faut régler la situation. Il faut trouver des solutions durables. Alors moi, je me dis, une des solutions, ça serait tout d'abord de payer plus grassement les greffiers. Les juges ont obtenu une augmentation importante de leur salaire, mais les greffiers se contentent de miettes. Je n'ai qu'un salaire de greffier, c'est entre 35 000 et 45 600 $ par année, ce qui est totalement inacceptable. Au privé, ils vont chercher 20 000 $ de plus. Et sans greffier, les systèmes de justice sont arrêtés et le cas le plus criant, celui du Palais de justice de Montréal. Je vais m'arrêter là-dessus, je reviendrai avec d'autres solutions.
Luc, mais la juge, premièrement dans le jugement, quand il dit que il dit pas qu'il n'y aura pas d'impact sur les délais, il dit il y avait déjà des délais.
Exact.
Mais il me semble que c'est un argument un peu court, ça. Il y avait déjà des délais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas encore plus. Et d'ailleurs, les délais sont tels qu'on a observé le nombre de dossiers en attente est revenu à peu près au même niveau qu'au moment où l'arrêt Jordan était prononcé. Et l'arrêt Jordan était prononcé parce qu'on avait dit de tels délais, c'est un déni de justice et on va libérer toutes les personnes qui font face à de tels délais. Et là, on est revenu au même délai, au même nombre de cas. Donc, il y a un problème. Et la juge, elle cite, la juge Rondeau, Trudeau cite le sommaire Galarneau. Le sommaire Galarneau, c'est un rapport qui dit pourquoi il y a une augmentation. Écoutez ça, là, l'augmentation des délais, c'est causé par quoi? Alourdissement de la tâche, donc l'alourdissement en règle générale. L'augmentation et l'assistance obligatoire aux personnes non représentées. Le temps requis pour gérer la bonne marche dossier afin de rencontrer les délais. L'impact de la Charte canadienne des droits et libertés qui réserve aux tribunaux la responsabilité d'intervenir lorsqu'un droit est violé en invalidant une loi, en ordonnant le remède approprié, une conduite inconstitutionnelle. L'accroissement des exigences pour toutes les affaires d'écoute électronique. Le nouveau rapport sur les violences sexuelles et domestiques qui exige des formations des juges puis qui exige aussi une façon différente de travailler. Une nouvelle façon de rédiger la preuve, le jugement pour qu'elle soit plus rigoureuse. Coudonc, la justice se donne des règles, des normes de plus en plus aiguës. Puis là, après ça, on dit il manque de juges. Mais j'aimerais bien qu'on questionne un peu, moi, ces normes-là, en disant... OK, c'est correct. Ça va coûter 20 millions pour engager 42 juges de plus, là. Mais on va faire le débat à l'Assemblée nationale, pas en cours.
Ouais, ben oui et non, parce que les juges, c'est la prérogative du gouvernement de nommer des juges. Mais je pense que le débat qui pourrait se faire à l'Assemblée nationale, Luc, c'est est-ce que la solution pour, dans le fond, préserver le système de justice pour éviter qu'il s'écroule, est-ce que c'est toujours l'embauche de juges? Est-ce qu'on pourrait pas sortir en dehors de la boîte, un exercice que tu affectionnes particulièrement, mon cher Luc? Mm-hmm. Parce qu'actuellement, il y a 308 juges à la Cour du Québec, dont 160 qui siègent à la Chambre criminelle ou pénale. On s'entend que les dossiers de nature criminelle, les affaires criminelles, c'est celles qui occupent le plus les tribunaux. Il y a un ancien juge de la Cour suprême qui s'appelle Michael Moldaver, ou Moldaver, je sais pas comment on le prononce, qui s'est exprimé sur le sujet en septembre, pas plus tard qu'en septembre dernier, qui a dit que si on éliminait les affaires criminelles les moins graves de nos tribunaux, peut-être qu'on arriverait, peut-être qu'on permettrait au système de souffler un peu plus. Ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'on pourrait traiter certaines affaires moins graves avec d'autres alternatives que de mobiliser tout le système de justice, par exemple avec des contraventions. Il souligne des accords de plaidoyer raisonnables ou des frais de retrait. Je suis pas avocate, mais il y a peut-être là une piste qui pourrait être intéressante. C'est une piste de réflexion à long terme, mais ce qu'on cherche justement, c'est des solutions à long terme pour préserver le système de justice, parce que je pense qu'on va continuer de composer avec des délais qui vont devenir dans le futur de plus en plus déraisonnables. Alors, c'est bien triste ce qui se passe, parce que moi, ce que je souhaiterais, c'est que les partis décident de s'asseoir à une même table et disent ben, comment on peut dialoguer plutôt que de s'affronter devant le tribunal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hugues, mais oui. Ça me semble être contre-productif. Ben,
moi, je suis d'accord. Bon, premièrement, cette affaire-là, ça donne l'impression que la juge et juge est partie. L'expression existe, mais là, c'est une illustration vraiment réaliste. Là. La juge décide. Moi, si je veux appliquer toutes ces réformes-là, j'ai besoin de plus de monde. Elle a commencé par dire je veux avoir 41 juges de plus.
Mais excuse-moi, un commentaire là-dessus. Elle a fait ses devoirs, la juge en chef, parce que tu as parlé du rapport Galarneau. Elle a consulté les sous-ministres, elle a mobilisé énormément de gens autour d'elle pour trouver des solutions à ce qu'elle constate à tous les jours dans les tribunaux, dans les palais de justice.
Oui, mais tu regardes, en DPJ, en éducation, en n'importe quoi, là, tu dis je fais face à de plus en plus de complexités, en plus en plus de difficultés. Tu te signes pas un chèque en disant ben parce que je fais face à plus de complexités, moi, j'ai besoin de plus de monde, puis je me signe le chèque pour embaucher le monde. Il y a une étape là-dedans où tu impliques le ministre. Il y a une étape où tu dis le ministre.
Elle l'a fait.
Oui, non,
elle
non,
fait.
Non, 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 elle a avisé. Elle a avisé le sous-ministre. Là, tu le fais pas. Merci, bonsoir. On siège une journée sur deux.
Oublie pas, il y a l'indépendance des tribunaux, Luc. Le pouvoir, oui, l'indépendance des tribunaux, c'est sacré dans notre système de justice. Ce qu'elle veut, c'est prémunir cette indépendance de la présence ou en fait de
ouais,
l'ingérence
mais moi,
du
regarde,
pouvoir
exécutif. Mais tu sais, la justice, là, ils se sont hyper spécialisés. Comme par exemple l'écoute électronique. L'écoute électronique, maintenant, tu peux plus faire. Il y a tout un processus où ça doit se faire sur le banc. Toute l'analyse de l'écoute électronique. C'est devenu hyper compliqué, hyper long.
Oui,
ça consomme énormément de temps. Et pas seulement ça, c'est totalement et constamment contesté par les avocats de la défense.
Mais
ça, c'est une charge de travail immense qui vient de s'ajouter.
Oui.
Puis, il n'y a pas personne qui l'a remis en cause, là, en disant.
Mais au contraire, c'est ça qui crée la situation à laquelle sont confrontés les juges.
Je vous arrête. Même si c'est pas de l'écoute électronique, c'est de l'écoute volontaire.
Oui, nos auditeurs font de l'écoute électronique.
Oui, dans un sens, mais ils ont besoin de mandat. Merci à tous les deux, on vous retrouve demain.
C'est 23.